Donc avec Virginie Brinker, qui est donc notre dernière communicante, qui est maître de conférence, maîtresse de conférence en littérature francophone à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et donc qui va présenter une communication intitulée « Héritage de Césaire, Fanon et Glissant, stratégie d'authentification et processus identitaire ».
Merci beaucoup. Je sais pas si... Oui, si. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci très sincèrement aux concepteurs et aux organisateurs de ce colloque parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est simplement une des premières étapes de travail d'un chantier de recherche qui est en cours d'élaboration, qui comprend un large corpus dont les textes de rap font partie, mais un large corpus qui interroge, questionne, actualise, réfléchit les enjeux politiques liés aux questions d'identité en France. Donc dans ce cadre-là, le titre de ma communication a un peu changé, je l'ai recentré vers ce qui m'intéresse véritablement, donc je vous le livre tel que je l'ai modifié, « Héritage de Fanon, Césaire et Glissant, enjeux politiques et identitaires des références ». Alors j'ai souhaité m'interroger sur les enjeux de ces références mobilisées par certains rappeurs dans leurs textes. Alors ma formation purement littéraire m'interdit malheureusement pour l'instant d'aborder ces productions du point de vue de leur musicalité, également de travailler la dimension proprement musicale, on va dire. Mais donc j'ai choisi de m'interroger sur ces références à des penseurs qui se sont eux-mêmes donc intéressés aux questions identitaires. Par ce terme de référence, j'entends tout autant les penseurs eux-mêmes, au sens où l'on dit qu'un tel est une référence en matière d'eux, etc., que tout un système de pensée implicite qui est évoqué au moyen d'une simple mention dans un énoncé, que cette mention soit l'utilisation du patronyme hein, de ces penseurs ou de citations. Comme on dit qu'on fait référence à, au sens de on évoque quelque chose en convoquant donc de façon sous-jacente tout un système de pensée implicite. Alors bien sûr, cet implicite, il est tout à fait lié à la forme même hein, des textes de rap, fondés sur leur économie d'expression, j'y reviendrai tout à l'heure. Ainsi, en se définissant comme des héritiers de Césaire, Fanon ou Glissant, quelles actualisations véritablement poétiques et politiques ces textes proposent-ils ? Alors au niveau du corpus, sans prétendre à l'exhaustivité et de façon somme toute assez arbitraire, puisqu'il s'agit d'un chantier en cours d'élaboration, je souhaiterais simplement ici focaliser mon propos sur trois artistes, ou trois groupes d'artistes, La Rumeur, Youssoupha et Rohan Hussein, qui sont fort différents, mais dont le point commun est de mobiliser de façon constante au fil des albums, au moins un de ses penseurs, issus de l'espace francophone, dans toute la complexité de sa pensée. Et j'ai en effet voulu distinguer l'effet citation, qui est très récurrent chez de nombreux artistes. Alors, pour ne citer que la convocation de Fanon, on pense par exemple à Dizzys, Demi Portion, Kerry James, etc., qui mobilisent du moins son patronyme. J'ai souhaité donc différencier cet effet citation de la référence, comme je vous le disais, appuyée et constante, qui assoit véritablement une pensée politique dans toute sa complexité. Donc, dans une perspective littéraire, je souhaiterais montrer en quoi l'acte de référence dans les productions même de ces artistes peut contribuer à produire une pensée politique pleinement contemporaine, tout en la légitimant. Et au-delà même de cela, dans une perspective plus pragmatique, je souhaiterais montrer, au fil de l'analyse, que l'acte de référence lui-même constitue pleinement une action politique. Alors pour plus de clarté, je vais organiser mon analyse en quatre points qui correspondent en fait aux aspects des pensées de Fanon, Césaire et Glissant qui se trouvent privilégiés dans les textes que j'ai retenus ce matin. Donc le premier point, c'est en quoi les textes étudiés retiennent les positions de ces penseurs contre la domination coloniale et les actualisent en une pensée et une poétique postcoloniale, qui sont des points qui ont déjà été bien documentés, bien abordés. Alors pour aller rapidement, Dans les textes de rap donc étudiés, notamment ceux de La Rumeur, il y a une continuité entre les situations de domination esclavagiste, coloniale et postcoloniale en France, qui touchent particulièrement donc les Africains, les Antillais, leurs descendants, ce qui permet d'actualiser la référence notamment à Fanon. Je pense à un texte, entre autres, hein, comme Nature morte de La Rumeur, qu'as-tu à dire à ces corps pris pour chair à canon, à ces damnés de la terre, chair à Frantz Fanon, etc. Cette continuité s'illustre dans les textes par le recours à plusieurs métaphores, hein, ça a déjà été bien montré, la banlieue populaire comme prolongement du champ de coton, la cité comme métaphore du zoo humain, auquel on pourrait ajouter aussi l'utilisation du présent pour parler de situations coloniales. On pense au gimmick de Youssoupha, hein, « La France, tu l'aimes ou tu la quittes, je répondrai à cette offense quand vous nous rendrez l'Afrique », ou à un extrait d'un texte de La Rumeur, « Interdit d'accès ». J'écris le doigt sur la gâchette, la main sur la machette, dis-moi où se trouve la vraie vie, comme celle que les colons s'achètent. Donc avec le présent ici. L'énoncé est intéressant ici car il implique l'action, il a une force illocutoire, il s'agit d'une sommation très illustrée ici et on n'a pas de peine à imaginer le geste qui accompagne la parole, qui cherche in fine, sans doute, à éliminer le colon lui-même. Et dans le même morceau, le titre de l'album, hein, « Tout brûle déjà », est repris et il s'agit d'un énoncé pleinement, d'un énoncé constatif, hein, qui a valeur performative ici, tel que théorisé par Austin, « Tout brûle déjà dans le pays de mes chansonnettes ». Alors, pour revenir à l'actualisation de la domination coloniale dans ces textes, il est intéressant de noter aussi qu'il y a une pensée de la perpétuation du colonialisme au-delà de la décolonisation chez Fanon. Par exemple, dans le chapitre 3, hein, des Damnés de la Terre, qui s'intitule « Mésaventure de la conscience coloniale », Fanon théorise, hein, une forme de néocolonialisme. Et plus que La Rumeur encore, peut-être, Youssoupha produit un discours actuel sur le continent africain qui va en ce sens. Je cite « Pour l'Afrique, je gueule, mais parfois je me résigne. Un continent en forme de gun, c'est vraiment un mauvais signe. » Je passe un peu. « Le premier ennemi de l'homme noir reste l'homme noir. Le doute est normal. C'est dans ma culture, depuis qu'on a voulu me faire croire que votre passé sera notre futur. Et comment notre histoire peut être corrigée quand on a les religions des gens qui nous ont colonisés. Récupérez vos Voltaire et vos Guevara. Mon histoire est écrite par Frantz Fanon et par Sankara. » Vous aurez certainement reconnu un extrait de la chanson-titre de l'album « Noir désir ». Dans cet extrait que j'ai cité un peu longuement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit comment le glissement du présent des oppressions africaines, le premier ennemi de l'homme noir reste l'homme noir, on voit ce glissement donc du présent des oppressions africaines au passé colonial, et la référence à Fanon, elle vient ici opérer comme un moyen de penser les deux états de fait conjointement, tout en légitimant, hein, cette prise de position. Et surtout, l'impératif « récupérer vos Voltaire et vos Guevara » qui enjoint à l'action est immédiatement suivi d'un présent qui a une forme de vérité générale. « Mon histoire est écrite par Frantz Fanon » comme si l'acte de référence en lui-même parvenait à accomplir quasi immédiatement, hein, l'acte de remplacement. Et on voit bien ici que la référence se fait, hein, parole, véritablement action performative. Par ailleurs, s'ajoute bien sûr à tout cela l'actualisation performative permise par la mise en voix, hein, des textes de rap. Youssoupha, et ce n'est pas le seul bien évidemment, utilise volontiers des procédés techniques qui viennent renforcer les actes de parole et la force illocutoire du propos, les yé, ouais, etc. Qu'on les nomme interpellation directe au public comme Isabelle Marc-Martinez ou saillie énonciative comme Anthony Pierre, que, qui en tout cas viennent donner aux rappeurs, je cite ici Christian Béthune, la capacité d'accomplir des actes de parole en différé, renouant avec les origines orales du rap. Alors le deuxième aspect privilégié dans les textes, je fais vite et je ne donne que quelques exemples ponctuels, serait la pensée fanonienne de l'aliénation. Alors, les textes psychiatriques nourrissent la pensée politique de Frantz Fanon et inversement. Je pense ici à un texte de Fanon de 1955 qui s'intitule « Les considérations ethnopsychiatriques », dans lequel Fanon explique la situation qu'il trouve lorsqu'il prend ses fonctions à l'hôpital ségrégué de Blida en Algérie en 1954, qui est en fait une situation dans laquelle domine l'idéologie primitiviste de Porro, l'idéologie dominante de l'école d'Alger, qui fige ce que l'on a appelé les indigènes musulmans dans des déterminations biologiques qui fait que leurs maladies mentales ne peuvent évoluer, qu'ils sont figés dans un état différent, limités dans leur évolution. C'est les termes que l'on retrouve à l'époque. Et évidemment, toute la thèse de Fanon, au-delà d'une approche sociale et culturelle de la maladie mentale, bien sûr, va être de récuser ce racialisme scientifique. Et cette récusation du racialisme scientifique, elle se trouve elle-même thématisée dans un certain nombre de textes de rap qui mettent à distance un vocabulaire prétendument médical, racialisé, donc en l'évacuant complètement. Encore une fois, on pourrait citer « Nature morte » de la rumeur, mais il y aurait d'autres exemples. Par ailleurs, il y a la nécessité pour Fanon de se penser autrement que comme un autre. C'est tout l'enjeu du concept de désaliénation, hein, qui est le fondement de sa pensée, une forme de décolonisation de l'être. C'est-à-dire d'abord une forme de prise de conscience de l'enfermement dans une perspective, dans une perception aliénante qu'ont les autres de nous-mêmes. C'est ce qu'il développe, par exemple, dans le chapitre de Peau noire, masque blanc, l'expérience vécue de l'homme noir. Alors, un morceau comme « À les écouter tous » de La Rumeur, extrait de « L'ombre sur la mesure », en 2002, rend compte par l'usage du discours indirect libre de ce regard aliénant, postcolonial cette fois-ci, je cite « À les écouter, on est tous du mauvais côté, du mauvais quota, persona non grata venue juste pour les gratter, ingrat, aigri et raté, tas de renois et de ratons, immigré à dénigrer et à mater sous le bâton, un baptême d'hématome ayant pour thème amertume, etc. » Dans ces paroles, la caricature grossière, à tous les sens du terme, hein, raton, maté sous le bâton, etc., cède le pas à un langage plus poétique, un baptême d'hématome ayant pour thème amertume, qui est fondé certes sur une métaphore, mais aussi sur une rythmique, une allitération en te, qui par harmonie imitative, on pourrait dire, évoque les percussions peut-être des coups de bâton que l'on renvoie en tout cas à l'envoyeur, et c'est ce qui compte, c'est-à-dire que le langage du poème ici se fait action véritablement désaliénante contre les discours racistes, et il est action lui-même en se faisant. Concernant toujours la notion de désaliénation, Fanon était un grand admirateur de Césaire, il connaissait par cœur le cahier d'un retour au pays natal, mais sa critique essentielle de la négritude, c'était qu'il s'agissait d'une fausse solution, une fausse réponse à l'aliénation en tout cas. La négritude, cette mystification, écrit-il, au sens où il la conçoit comme une idéologie de l'identité et qu'il refuse, lui, l'essentialisation. Hein, le nègre n'est pas plus que le blanc, etc. Donc, la négritude est en fait, pour Fanon, un stade simplement dialectique avant, je cite, « la synthèse ou la réalisation de l'humain dans une société sans race ». C'est un extrait de Peau noire, masque blanc. Or, les textes de Rohan actualisent cette conception d'une société sans race. Le texte « Avant de partir », qui est extrait de l'album Rumi en 2012, cite d'ailleurs indirectement Fanon. Rohan dit « La fille de Frantz Fanon m'a dit qu'elle ne me reparlerait que si je finissais mes études », avant de récuser dans ce même texte « Au nom de l'appartenance universelle à l'humanité, les termes d'intégration et de mariage interraciaux ». Et en effet, cette pensée de l'universalité humaine, elle est en fait rendue possible par le fait que chez Fanon, lorsqu'il la conçoit, lorsqu'il l'envisage, le statut colonial est, je le cite, exclu irréversiblement. Je pense ici aux formules qu'il emploie dans Racisme et culture. Et c'est aussi le cas des textes de Rohan, puisque, par exemple, dans Idéalistique, il parle de l'héritage, certes, mais d'un passé colonial, ou dans un morceau plus récent de 2016 qui s'intitule Till Infinity, il parle de chaînes enfin brisées, enfin libres de mes chaînes, etc. Et ce n'est absolument pas le cas donc des textes de La Rumeur et Youssoupha qui conçoivent la situation coloniale au présent. Donc rien d'étonnant dès lors à ce que ceci privilégie d'autres aspects, notamment la question théorisée par Césaire de l'approfondissement de la singularité comme saut vers une fraternité plus large. C'est le troisième point que je vais envisager maintenant, cette idée étant chère à Aimé Césaire. Alors, depuis À chaque frère de Youssoupha, l'album de 2007, le morceau Rendons à Césaire, cet album d'ailleurs À chaque frère devait s'appeler Négritude, c'est l'album de 2015 qui s'appellera comme cela, la référence à Césaire, à la négritude, à l'Afrique et à la couleur noire sont des références constantes. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer que effectivement, la façon dont il conçoit la négritude est purement la négritude césarienne, on va dire. C'est-à-dire celle qui apparaît dans le discours sur la négritude, donc la définition de la négritude de Césaire donnée en 1987, donc texte assez tardif. Césaire écrit « La négritude n'est pas essentiellement de l'ordre du biologique. Par-delà le biologique immédiat, c'est une des formes historiques de la condition faite à l'homme. » Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de non pas d'ambivalence, mais en tout cas de complexité du concept, au sens où la question raciale, la question biologique, en tout cas, elle se trouve mise à distance dans ce discours, mais malgré tout, le biologique persiste. Et c'est aussi ce que l'on retrouve dans les textes de Youssoupha. De même, dans le discours sur la négritude de Césaire, il y a une idée forte, je cite ici Césaire, « La négritude serait donc la recherche de notre identité, l'affirmation de notre droit à la différence, la sommation faite à tous d'une reconnaissance de ce droit et du respect de notre personnalité communautaire. » Et ce qui est intéressant, c'est que derrière cette citation, pourtant, malgré le mot, l'expression notre personnalité communautaire, il ne s'agit pas d'une conception communautariste pour autant. Césaire écrit, ce sont les derniers mots du discours sur la négritude qu'il a repris et reformulé un certain nombre de fois dans ses interventions publiques. Il écrit « Notre engagement n'a de sens que s'il s'agit d'un réenracinement, certes, mais aussi d'un épanouissement, d'un dépassement et de la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. » Ce que l'on retrouve sous la plume de Youssoupha à maints endroits et de façon assez parlante, par exemple dans le morceau Rendons à Césaire, il le dit clairement, je représente les Renois, les Rebeux et les Babtous. Donc le pont du morceau titre de l'album Négritude de Youssoupha fait d'ailleurs entendre la voix de Césaire dans ce saut vers la fraternité plus large, dans ce saut du particulier vers l'universel, puisque ce qui est samplé des paroles de Césaire, ce sont les paroles suivantes. D'une identité, c'est sûr, d'une identité réconciliée avec l'universel. Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on est nègre. Au contraire, je vous disais, plus on est nègre, plus on sera universel. Et le fait de faire apparaître cela dans le pont du morceau actualise, dans un morceau contemporain, cette forme de prophétie, puisqu'on avait le futur chez Césaire. Le dernier point, ce serait la pensée de la relation glissantienne qui actualise donc une poétique de l'identité-relation dans les textes que j'ai étudiés. Alors, Rohan fait de façon tout à fait explicite, essentiellement référence à Césaire, lui aussi, qu'il cite comme un de ses pères fondateurs dans Généralif, par exemple, à côté d'Averroès, d'Amin Malouf, etc. Il écrit dans Rumi, où il dit dans Rumi, « Si fier de mes racines, je m'inspire de la négritude de Monsieur Césaire. » Donc il se définit vraiment comme un héritier lui aussi. Pourtant, ces textes pourraient être aisément qualifiés de glissantiens, au sens où ils reflètent la pensée d'Édouard Glissant concernant l'identité-relation. Or, il y a bien sûr chez d'autres rappeurs des accents glissantiens. On peut bien sûr penser à Rossé, hein, dans Identité en crescendo, un morceau comme L'un et le multiple, à d'autres exemples, qui font référence à la façon dont Glissant conçoit la complexité et la multiplicité de la notion d'identité, dans la façon dont Glissant la théorise, hein, le concept d'antillanité, comme par exemple l'identité qui est née d'un syncrétisme et du métissage à la fois linguistique et culturel. Mais ce qui me paraît tout à fait singulier, même dans les productions de Rohan, c'est qu'il actualise, lui, pleinement le concept, je disais, d'identité-relation. Il actualise la pensée de la relation glissantienne. Alors, même si le patronyme de Glissant n'apparaît pas en tant que tel, il y a une forme de citation, je voudrais vous le montrer, qui directement peut être conçue comme une référence. Alors, par rapport au pont avec la pensée de Glissant chez Rohan, cela passe par l'affirmation d'une différence, d'abord. Rohan est un Français d'origine styrienne qui, dans ses textes, chante ses origines, ses souvenirs, notamment le texte Syrie ou le texte Fils d'Orient. Or, le différent, c'est ce à partir de quoi Glissant va penser la relation. Hein, il écrit dans Philosophie de la relation, poésie en étendue, reconnaître la différence, les différents comme l'élément premier de la relation. Mais chez Rohan comme chez Glissant, cette différence, elle est toujours pensée en lien avec le monde. En effet, c'est à partir de cette relation que le rappeur s'élance vers le monde. Il y a chez Rohan tout un champ lexical du mouvement, du voyage, une véritable poétique de l'errance qui passe par le fait d'égrener un certain nombre de lieux du monde. C'est même la base de sa poétique. Hein. Plusieurs de ses morceaux portent des noms de lieux. Paris, New York, Damas, Syrie, bien sûr, Marseille, Brooklyn, etc. C'est-à-dire que, au fond, pour Glissant, la façon dont il conçoit l'errance, qui est un concept qui est central dans sa pensée, c'est une pensée qui va, il écrit dans Traité du Tout-Monde, défourner l'imaginaire, nous projeter loin de cette grotte ou prison où nous étions tassés. Nous sommes plus grands de toutes les variances du monde. Et ce concept d'errance, finalement, au-delà de la façon dont il apparaît comme ça dans les textes en filigrane de Rohan, il est repris explicitement à son compte par Rohan lui-même, qui dit dans Paris, New York, Damas, « Mon errance est capitale ». À mon avis, cette affirmation-là ne peut se concevoir que lorsque l'on a en tête le fait, justement, qu'il y a un certain nombre de ponts possibles avec la pensée de Glissant. D'ailleurs, Rohan se définit comme un rappeur géopoétique, hein, un être pleinement en relation. Il dit, c'est l'histoire dans Paris, New York, Damas, c'est l'histoire d'un mec libre qui veut caresser le monde avec ses mains. C'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans ses textes. C'est quasiment terminé. Donc, l'errance est ainsi ancrée dans un lieu identifié, la Syrie, mais qui permet de se penser, se concevoir comme un être en relation. Je cite Glissant, « Par la pensée de l'errance, nous refusons les racines uniques et qui tuent autour d'elles. La pensée de l'errance est celle des enracinements solidaires et des racines en rhizome. Contre les maladies de l'identité racine unique, elle est et reste le conducteur infini de l'identité-relation. » Dès lors, des énoncés du type « je prends le large, j'explore le monde et ses contrées lointaines » peuvent être considérés chez Rohan comme pleinement performatif et actualisant de cette relation. Je termine juste un petit mot sur Roanne et puis je conclue. Roanne utilise aussi le terme de créolisation dans ses textes, qui est un terme qui fait fortement écho à la pensée glissantienne, et il l'utilise dans le sens glissantien, c'est-à-dire, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Summertime, qui est une chanson d'amour, hein, et qui définit la créolisation comme le fait de, ce que dit Glissant, changer par échanger avec l'autre, sans me perdre pourtant, ni me dénaturer. Donc, pour conclure, il me semble donc que ces actes de référence, ici étudiés, sont de véritables actions sur le monde, et que venant compléter la nécessaire économie de l'expression liée au genre même du texte de rap, le recours à l'acte de référence signe la résistance de ces textes, au sens où Catherine Tovron parle de textes résistants en littérature, c'est-à-dire de textes qui font appel à une interprétation, car ils sont nécessairement lacunaires, manie de l'implicite, appel à l'interprétation, ici donc par la référence justement. Mais on pourrait bien sûr jouer sur le premier sens du terme, hein, de résistant, puisque ces textes sont actions politiques par les énoncés performatifs qu'ils utilisent, notamment face à l'émergence de gouvernements nationalistes et populistes, comme le soulignait hier Murray Forman. Donc historiquement, l'hommage, c'était bien une action, celle de rendre un devoir, celle que le vassal devait, donc le devoir qu'il devait rendre au seigneur dont son fief relevait. Et ce qui importe, à mon sens ici, c'est donc de concevoir l'hommage comme action. Il ne s'agit donc pas tant de faire purement référence à ou de chercher à s'inscrire dans la République des lettres par ces références, que de parvenir à véritablement changer le monde, ou du moins notre vision de ce dernier. Voilà, je vous remercie.